Définition assez intéressante de ma tâche, si on la prenait dans le sens musical. Et donc, du coup, je vais essayer dans ma présentation à la fois de trouver un certain nombre de références à ce qui s'est dit, pas faire une synthèse, évidemment, ça n'a aucun sens comme ça de faire au vol une synthèse, mais de trouver quand même un certain nombre de références et d'appuis dans ce qui a pu se dire dans la journée, et puis en même temps vous exposer mon propre point de vue. Basé un peu sur mes travaux ou sur des travaux récents qui à la fois vont croiser, qui vont beaucoup plus... Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur les communs informationnels, notamment le logiciel libre pendant très longtemps et les Creative Commons plus récemment. Mais ayant travaillé beaucoup sur le développement territorial et sur l'espace, je me suis intéressé, il fallait que ça se croise, donc ça s'est croisé il y a peu de temps, enfin il y a 2 ans à peu près, et donc je vais essayer de donner à ma présentation, une coloration un peu aussi orientée sur les questions de développement territorial. Et quand je parle de développement territorial, je ne veux pas l'entendre simplement d'un point de vue développement économique, mais aussi développement social et développement humain, c'est évidemment, ça va de soi. Alors, une première remarque donc, en introduction, c'est que les communs au niveau de développement territorial, donc, qui sont le sujet autour duquel on discute aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est apparu au tournant des années 2000, mais ça a une existence, ça a une histoire. Alors je vous ai donné deux exemples, il y a l'exemple des castors dans l'après-deuxième guerre mondiale, ce mouvement d'autoconstruction et d'entraide pour construire des maisons dans la France en reconstruction. Ça s'est développé beaucoup dans les années 50 et 60, ça a eu un très grand essor. Ensuite, l'autre exemple, c'est les jardins communautaires, on parle beaucoup des jardins partagés aujourd'hui. Ça remonte, c'est une longue tradition qui trouve ses racines en Europe, dans les terres collectives au Moyen-Âge. Et puis plus récemment, notamment en France, dans les jardins ouvriers, et à New York, où le mouvement des jardins communautaires a vu le jour dans les années 70, dans les friches qui étaient laissées vides, et donc qui ont été réappropriées par des citoyens, des mouvements de citoyens. Alors aujourd'hui, il semble quand même que ça ait une ampleur nouvelle, et donc je vais essayer d'abord m'interroger pourquoi aujourd'hui, et notamment... qu'est-ce que traduit cette nouvelle spatialisation des communs, alors même que tous les communs ne sont pas spatiaux, hein, on a parlé de logiciels libres, de Creative Commons tout à l'heure, il y a des tas d'autres choses, de Wikipédia, tous les communs ne sont pas spatialisés, mais pourquoi certains communs se spatialisent, prennent une dimension spatiale, et pourquoi ça à l'heure de l'Internet et de la globalisation, où au contraire on pensait par certains chantres prédisait la réification de l'espace. Et donc je vais essayer de m'interroger aussi sur quelles implications ça peut avoir dans les termes de politique sociale, politique urbaine, et puis aussi au niveau législatif, réglementaire et régulation. Alors si vous le voulez bien, pour essayer de mieux comprendre, et notamment pour revenir, pour introduire cette dimension du développement territorial, je vous propose de faire un petit retour en arrière, historique, pas très très long, on pourrait remonter plus loin, ce serait intéressant, mais simplement on va se situer, on va démarrer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi? Parce que ça va être ce qu'on a qualifié des 30 glorieuses, et dans les 30 glorieuses, la caractéristique des 30 glorieuses, c'est que le développement économique est basé sur la grande entreprise, et tout ce qui est développement social, cohésion sociale, développement humain, est basé sur l'État-providence. Au réveil au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il faut reconstruire un pays dont l'économie est mise à plus bas de terre, qui est traumatisé par la barbarie nazie. Donc ce sont à la fois deux enjeux, un enjeu qui est un enjeu économique, et donc il va se traduire dans l'agriculture intensive et la nouvelle industrialisation. Et puis, de l'autre côté, la question des droits de l'homme et des droits du citoyen. Vous savez, c'est les lendemains qui chantent, c'est-à-dire là, le programme du Comité national de la résistance, du Conseil national de la résistance, et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui suit peu de temps après. Alors, donc je vais très très vite parce que le temps m'est compté. Donc, sur le plan économique, le modèle, ce qui est issu, qui est importé du modèle de l'industrie américaine, c'est la grande entreprise. C'est la grande entreprise de laquelle on attend des effets d'entraînement autour de la grande entreprise. Et ça va entraîner, donc ça va amener au niveau de la politique économique la recherche de constitution de champions nationaux, qui vont être donc les grands piliers de cette industrie. Et puis, de l'autre côté, ça va entraîner par des effets effectivement d'agglomération, une concentration spatiale des activités autour de pôles qui sont essentiellement urbains. Alors, sur le plan social, donc, je l'ai dit, c'est la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance et qui est une approche déterritorialisée, elle est nationale, et elle donne, parce qu'elle fonde la cohésion sociale sur l'accès et les droits des citoyens à tout, aux mêmes droits essentiels, où qu'ils soient sur le territoire national. Et ceci est placé sous la responsabilité de l'État, et ça se traduit à la fois par la création de la sécurité sociale avec ses différents secteurs, les accords de branche et les mutuelles professionnelles qui ne sont pas déclinées, contrairement à ce qui ressort des tendances récentes qui sont déclinées sur une échelle nationale pour que effectivement tous les travailleurs et tous les habitants, tous les citoyens soient mis à la même enseigne théoriquement. Et puis, alors, sur le plan territorial, où intervient, puisque ces politiques sont nationales, et sur le plan territorial, ben, où intervient l'État, il intervient pour corriger les imperfections de marché, parce qu'on l'a vu, effectivement, le marché tend à la polarisation, donc ça veut dire qu'il y a des inégalités entre les différentes zones du territoire, et donc l'État intervient pour corriger ces imperfections dans des termes d'arbitrage entre équité et efficacité, et c'est les fondements de la politique d'aménagement du territoire qui va se dérouler sur les années 50, 60, 70, vous savez, c'est Paris et le désert français, on envoie les grandes industries en province, voire même dans la campagne, pour avoir des effets d'entraînement et créer de l'activité économique. Alors le deuxième temps qui naît dans les années, je suis très volontairement très caricatural, hein, parce que sinon ça serait vraiment, il faudrait beaucoup plus de temps. Le deuxième temps, c'est naît dans les années 70, se déroule dans les années 80-90. C'est effectivement la crise du Fordisme, la globalisation, d'aucuns diront la mondialisation. Moi, j'aime mieux ce terme de globalisation. Et là, effectivement, les grandes firmes qui méconnaissaient déjà beaucoup les réalités locales quand elles étaient dans la stratégie précédente, ben là, elles se détachent de plus en plus des réalités locales, voire des réalités nationales. Et en fait, l'État perd le contrôle, perd les manettes de plus en plus de ce développement économique. Et donc les acteurs locaux, notamment à travers les collectivités territoriales, prennent conscience de se lâcher et veulent reprendre en charge leur destin, puisque l'État n'est plus capable, à travers la politique d'aménagement du territoire, à assurer la pérennité du développement économique et humain et social des régions, alors des régions ou des territoires, alors les acteurs veulent reprendre en main. Et ça, c'est la première fois, effectivement, que d'un seul coup, le développement local va être confié, en fait, à travers d'abord la création des établissements publics régionaux en 72, et puis surtout les lois de décentralisation vont être confiées à des acteurs, des collectivités territoriales. Je vous rappelle qu'auparavant, les régions, qui là, cette fois-ci, sont en charge du développement local, n'avaient de prise avant que sur le tourisme. C'était le seul domaine dans lequel elles pouvaient intervenir. Alors, on assiste véritablement à un engouement, une réinvention du local, quelquefois parée à tort ou à raison de toutes les vertus, de manière quelquefois excessive, et ça entraîne un certain nombre de décentralisation des politiques publiques. Alors, décentralisation au niveau du développement économique, donc les collectivités sont amenées à prendre de nouvelles initiatives. Elles sont soutenues, bien sûr, par la DATAR, qui continue et qui se rapproche d'ailleurs des académiques pour créer de nouveaux concepts. On a parlé des districts, des systèmes productifs locaux, des milieux innovateurs tout à l'heure. C'est l'accent mis sur les TPE et les PME. Et c'est en même temps, il y a toujours cette dualité avec les grandes entreprises, avec des politiques de compétitivité et d'attraction vis-à-vis de ces grandes firmes. Alors c'est aussi la décentralisation des politiques de cohésion sociale. Alors, décentralisation ou territorialisation à nouveau, notamment à partir des années 80, avant il ne se passe rien. C'est au début des années 80, avec les grands mouvements sociaux violents qu'il y a dans les grandes villes, qu'on invente les politiques urbaines, puis la politique de la ville, qu'on crée ce qui allait devenir des zones d'éducation prioritaire, qu'on crée des antennes locales, des missions locales pour l'emploi, etc., etc. Et puis, évidemment, dans la décentralisation des politiques sociales, c'est aussi les politiques du logement et le RMI. Et puis, parallèlement à ça, l'autre tendance, c'est on lâche sur le marché, c'est la libéralisation d'un certain nombre de grands services publics, c'est les partenariats publics-privés, et c'est l'introduction de nouveaux critères de gestion, notamment, vous savez, on a beaucoup parlé d'hôpital public récemment, et effectivement, c'est l'introduction de cette question de rentabilité de la gestion des services publics, qui est vraiment une rupture profonde par rapport à l'esprit du Conseil national de la Résistance. Alors, on arrive dans une situation où, finalement, cette nouvelle façon de gérer les territoires et de gérer le fonctionnement social de ce pays arrive à ses limites. C'est véritablement qu'il s'agisse du modèle jacobin appliqué globalement sur le territoire national ou de ses projections locales, je pense notamment au RMI ou à la question de la police. On arrive aux limites effectivement de cet État qui était à la fois l'État providence et l'État jacobin, et ça a un certain nombre de conséquences. Alors d'abord au plan économique, on a parlé tout à l'heure, Roberto Camilli parlait de la compétitivité des territoires, et la compétitivité et l'attractivité des territoires, elle a cet effet pervers qu'elle induit la concurrence des territoires. Alors, on pourrait dire au contraire, c'est très bien, mais la concurrence, c'est quelque chose qui est vertueux. Ben, la concurrence des territoires, le problème, c'est qu'effectivement, ça crée de la disparité, davantage de disparité. Ça crée aussi des politiques de dumping, fiscal ou social, voire environnemental. Et donc, ça crée des effets secondaires qui peuvent être catastrophiques. En même temps, ça crée de la disparité, à la fois interrégionale et à travers la métropolisation. Et puis, évidemment, ces effets sont accélérés par la crise, notamment la crise de 2008 et les années qui ont suivi. Alors, au plan social, alors quelque chose qui est vraiment... qui s'accentue, ça existait déjà, mais ça s'accentue encore davantage, c'est la spatialisation des inégalités et des disparités. Alors, spatialisation, évidemment, entre régions. Hein, vous connaissez tous les travaux de Davzi, par exemple, qui montrent bien, effectivement, enfin, c'est la première partie, disons, des travaux de Davzi, qui montrent bien comment ces inégalités interrégionales sont de plus en plus marquées. Et puis, quelque chose qui est relativement nouveau, tout au moins dans un pays du Nord, c'est qu'au sein des mêmes métropoles, alors, il y a de plus en plus des disparités, des inégalités criantes, qui se côtoient à très grande proximité. Hein. Jusqu'à présent, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais allé à Bogota, et à Bogota, j'avais été frappé de voir comment il y avait des villas de luxe qui côtoyaient des bidonvilles. Ben, aujourd'hui, dans les grandes métropoles françaises, on en est un peu là. Évidemment, on repousse vers les périphéries, c'est la périurbanisation, mais il y a même aussi la proximité très, très forte de patchworks sociaux très inégalitaires. Et donc, dans cette manifestation des disparités et des inégalités, l'échelle micro-locale devient de plus en plus pertinente. Et évidemment, ces inégalités qui s'accroissent ne sont pas simplement des inégalités de revenus et de patrimoine, mais aussi des inégalités qui résultent de situations cumulatives, multifactorielles, dans lesquelles, effectivement, l'emploi, l'éducation, la santé, le logement vont se renforcer les unes les autres dans des cercles pervers qui vont faire effectivement que de plus en plus des quartiers se sentent abandonnés, se sentent laissés à l'abandon face à un destin qui est... On avait l'habitude d'avoir des situations de crise, de renouvellement. Vous savez, la destruction créatrice schumpeterienne donnait l'idée qu'à un moment donné, il y avait... disons, une génération sacrifiée sur laquelle, effectivement, il fallait agir à travers des aides sociales, des mesures de transition, et puis qu'après, on allait pouvoir reprendre. Et là, on s'aperçoit que dans beaucoup de quartiers, beaucoup de villes, il y a au contraire un enfoncement, et un enfoncement plurigénérationnel dans une situation de crise et une situation où l'avenir n'existe plus. Et en plus de ça, évidemment, il y a la prise de conscience, arrive en plus de ça, la prise de conscience des questions environnementales. Et face à ces questions environnementales, là aussi, comme Catherine Larère l'a souligné, il y a effectivement des inégalités, par exemple face à la pollution. Tout le monde ne s'en sort pas de la même façon. C'est pas nouveau, mais on le découvre et ça s'accroît aussi dans cette nouvelle situation. Alors, de ça, qu'est-ce qu'il faut tirer ? Il faut tirer que finalement, on est dans une situation où les modèles top-down qui étaient à l'œuvre sont de plus en plus incapables de répondre aux préoccupations et aux besoins réels, aux besoins essentiels des citoyens. Parce qu'ils sont incapables, on applique les mêmes recettes, ils sont incapables de prendre en compte la situation, la singularité des situations dans les quartiers et des populations. Ils sont incapables de prendre en compte la manière dont la question de l'accès à un certain nombre de services se double aussi des conditions d'usage des services. Alors on voit ça très bien, par exemple, quand on commence à amener pour faire des critères de rentabilité, on commence à mettre beaucoup plus d'automates, par exemple, dans des systèmes postaux, dans des bureaux de poste. Et dans les bureaux de poste, quand on met des automates, quand il s'agit de bureaux avec une population alentour qui est relativement bien éduquée, enfin éduquée au sens qui a reçu un niveau d'éducation suffisamment important pour pouvoir se sortir de ces nouvelles machines, avec ces nouvelles machines, ça passe très bien. Quand vous arrivez dans des quartiers où il y a un niveau d'éducation plus faible, où il y a des problèmes de linguistique, etc., là, effectivement, là, on crée davantage d'inégalités quand on croit simplement moderniser. Et plus généralement, se pose le problème de l'extériorité des services publics. Hein, on a beaucoup parlé récemment des questions de police dans les banlieues, et c'est vrai que l'extériorisation des services de sécurité par rapport à un certain nombre de quartiers amène à des situations qui sont de part et d'autre invivables, hein, qui sont même du côté des policiers, parce qu'effectivement, quand des policiers arrivent la trouille au ventre pour intervenir dans les quartiers, ils ont des attitudes qui vont générer inversement des attitudes de rejet, et puis ils vont eux-mêmes générer de la violence. Donc, ceci pour dire que finalement, on ne peut plus se contenter de parler, par exemple, de la proximité d'un hôpital ou d'un stade, et encore, souvent, il y a des inégalités par rapport à ça, mais qu'il faut aussi croiser ça avec des inégalités, des proximités. C'est plus que de la proximité spatiale, c'est aussi une proximité que, dans l'école de la proximité, on appelle proximité organisée, donc qui sera essentiellement, disons, qu'on pourra appeler, dans ce cas-là, de proximité sociale, qui va être liée à des questions culturelles, à des questions cognitives, à des questions sociales, relationnelles, etc. Et donc il faut effectivement, ça veut dire qu'on n'est plus dans le rapport du droit du citoyen, le droit à ceci du citoyen, mais qu'on arrive beaucoup plus à un niveau collectif et à une échelle spatiale, micro-locale ou micro-locale, des impératifs qui sont dus à des groupes sociaux. Et là, effectivement, on est dans la combinaison de différentes formes de proximité. Alors en plus de ça, c'est l'irruption, évidemment, comme je l'ai dit, de nouvelles préoccupations environnementales et énergétiques qui renforcent cette incapacité du modèle top-down à être efficace. Et face à ça, eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que de plus en plus, il y a une volonté d'un nombre croissant de citoyens de faire entendre leur voix, de participer au processus de décision, y compris dans le développement économique, hein, y compris quand il s'agit de créer un nouveau cluster qui va se développer à un certain endroit. C'est la reprise d'initiative des citoyens de leur destin, à une échelle qui n'est pas simplement locale, mais qui est souvent locale. C'est comme l'a dit Stavros tout à l'heure, des initiatives de réappropriation de l'espace public, et c'est aussi des implications citoyennes avec l'égard de préoccupations environnementales. Alors par exemple, dans un numéro récent de la revue d'économie industrielle, Borin et Varlet montrent comment dans le cas de l'agglomération d'Inkerquoise, les habitants se sont ont imposé leur présence dans les comités de suivi et les comités de développement, qui étaient au départ des comités qui étaient mixtes, administration-entreprise, et se sont imposés effectivement dans ces comités, et ont imposé que des modèles de suivi, notamment de la qualité de l'air, qui demandent aux entreprises beaucoup plus, qui sont beaucoup plus exigeants vis-à-vis des entreprises, que simplement l'alignement sur les normes en vigueur. Donc ça, il y a des tas d'exemples dans ces dimensions-là qui sont extrêmement intéressants. Alors, bon, toutes ces initiatives, est-ce que ça fait de nouveaux communs, hein? Je pense qu'il y a trois dimensions qui me semblent très importantes à mettre en exergue par rapport à... et qui rencontrent beaucoup de ce qui a été dit aujourd'hui. D'abord, il y a le caractère pluridimensionnel et interdépendant des impératifs. Alors, j'ai cité la santé, le logement, la nutrition. C'est vrai que la santé dépend aussi des conditions de logement. Le mal logement entraîne une mauvaise santé. La malnutrition entraîne aussi de la mauvaise santé. Et donc, ça, c'est très important, c'est que ces dimensions, ce n'est pas des dimensions qu'on peut séparer, des droits qui sont des droits essentiels, mais qu'il faut regarder de manière globale aussi. Et le droit des habitants, c'est aussi de prendre des initiatives qui attaquent globalement l'ensemble de ces droits. Ensuite, il y a la question, et ça c'est vraiment fondamental, c'est, et qui nous ramène à cette notion un peu émergente et sur laquelle on a un petit peu du mal à se fixer, qui est la notion d'intérêt commun, on va y revenir, mais c'est l'interdépendance des individus à l'égard de la satisfaction de leurs besoins. Et ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où il s'agit plus simplement de revendiquer le droit à, mais c'est des impératifs qui sont dus à des groupes sociaux, et dans lesquels des groupes sociaux peuvent prendre collectivement l'initiative, des initiatives pour assurer, pour pérenniser ou assurer la satisfaction de ces droits. Et ça, bon, ça m'a fait revenir à un grand classique pour les économistes et pour les sociologues aussi, d'ailleurs, de Mancur-Olson, dans The Logic of Collective Action, et qui montre bien que, en fait, c'est à partir du moment où un certain nombre d'individus ont en commun un intérêt collectif, qu'ils vont avoir intérêt à s'organiser pour être plus efficaces ensemble. Ça paraît rien, mais c'est essentiel, mais ça rejoint effectivement cette idée que Michel Busseau mettait en avant tout à l'heure, sur l'idée que la communauté, elle est faite d'interdépendance, et elle est fondée sur la cohabitation, précisément, sur la cohabitation de gens, cette fois-ci, qui vont être dans un même quartier, ou dans une même ville, ou dans une même rue, ou dans une même cité. Je pense, par exemple, à Marseille, où il y a eu, vous savez qu'il y a des gros problèmes de trafic de drogue, et où la vie d'un certain nombre de cités est totalement rendue impossible par la présence de trafiquants de drogue, face à lequel la police n'arrive rien à faire, parce que les méthodes sont finalement très peu efficaces. Je vous renvoie aussi à The Wire, où c'est magnifiquement décrit, dans le cadre de Baltimore, c'est très proche, Baltimore à Marseille, pas géographiquement. Cette interdépendance des habitants, chacun sait que la satisfaction de ses besoins et de ses droits essentiels passe par aussi la satisfaction de ses besoins chez les autres habitants. Et ça crée de nouvelles formes de solidarité qui sont basées sur l'interdépendance, effectivement, des habitants par rapport à ça. Et ça, je crois que c'est très très important, parce qu'à partir du moment où on va vouloir parler d'intérêt commun au lieu d'intérêt général, c'est pour un certain nombre de raisons, mais une des raisons, c'est précisément, c'est pas du repli, et ça rejoint ce que disait Catherine Carrère tout à l'heure, c'est pas la question d'un repli sur soi en opposition avec la loi générale, mais c'est le fait que ces interdépendances qui vont faire qu'il s'agit de créer des communautés qui sont basées sur l'agir ensemble et la résolution de problèmes ensemble. Et ça va être d'autant plus vrai, ça va être d'autant plus manifeste quand l'intérêt général, entre guillemets, ne sait plus répondre aux besoins des populations, soit parce qu'il applique des recettes qui sont créées d'en haut, qui sont top-down, sans, en méconnaissant la situation réelle dans les quartiers ou dans les espaces dans lesquels c'est appliqué, soit aussi quand il est dévoyé vers l'intérêt privé, que ce soit par le détournement de fonds publics, ou que ce soit via le clientélisme qui a fait des ravages dans ce pays. Et bon, venant de Marseille, on pourrait en parler assez longtemps, effectivement. Alors, les citoyens vont faire entendre collectivement leur voix, ils deviennent acteurs du développement économique, social, urbain, et c'est aussi le développement de nouvelles formes de vivre ensemble, c'est l'invention de nouvelles formes de vie ensemble. Je pense par exemple, tout ce qui tourne autour de, je parlais de la malnutrition, tout ce qui tourne autour de la malnutrition, de la lutte contre la malnutrition, avec des initiatives où il s'agit de récupérer les marchandises, les invendus des supermarchés, afin que ne soient pas gaspillées. Vous savez, il y a un film magnifique qui a parlé de ça, je crois que ça s'appelait Discount ou Warm Discount, je ne sais plus, où effectivement on s'apercevait que dans les supermarchés, et c'est vrai, le soir, les invendus, on les mettait dans une benne et on recouvrait ça d'essence ou de produits pour les rendre inconsommables. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des progrès, et ça on va en reparler parce que les questions législatives et réglementaires sont très importantes. Aujourd'hui, c'est interdit pour les supermarchés de faire ça. C'est interdit, ça a été un amendement fort utile à la loi Macron qui est passé ric-rac et qui effectivement interdit ça. Et ça a permis à un certain nombre de collectifs de mettre en place des pratiques de récupération des invendus des supermarchés ça se faisait déjà de manière informelle et de manière voire illégale avant, notamment par exemple à Marseille, il y avait un monsieur qui allait, enfin deux personnes qui allaient à la sortie du marché des Arnavaux, qui est le marché d'intérêt national, en fin de marché pour récupérer les fruits et légumes invendus, et qui allaient ensuite dans les cités et qui vendaient ces fruits et légumes à 1 euro le kilo. Et ça permettait effectivement à des familles de pouvoir se nourrir correctement. Mais par contre, ils étaient visés par le fisc qui disait qu'ils ne respectaient pas ni les questions de fiscalité, plus tout ce qu'il pouvait y avoir comme travail déguisé derrière. Bien, passons. Donc, on est véritablement dans la possibilité d'émergence d'un tiers secteur entre État et marché. Alors, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que l'État doit laisser faire, laisser abandonner, comme quand on privatise, ben on laisse au marché. Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser au commun ? Alors, moi, je dis non, parce que si on dit laisser faire, d'abord, il y a le risque, dans le laisser faire de l'État, le retrait de l'État, il y a le risque de l'abandon des quartiers à des modes illégaux de gouvernance et au délabrement. On sait très bien que dans des quartiers, dans un certain nombre de quartiers, l'économie souterraine permet de tenir, mais l'économie souterraine, tant qu'elle est économie souterraine et qu'elle se situe dans l'illégalité, évidemment, elle n'a pas de pérennité possible et elle ne peut pas répondre à ses besoins de droits essentiels des habitants. Et alors quand en plus l'économie souterraine dérive vers l'économie du crime, ce qui n'est pas un pas très très difficile à franchir, alors là, effectivement, on est dans une dérive absolue. Il faut permettre effectivement aux initiatives citoyennes de trouver le bon cadre, à la fois en termes réglementaires, en termes législatifs. Alors, j'évoquais tout à l'heure la loi sur le gaspillage, enfin l'amendement qui permet d'empêcher le gaspillage, mais c'est aussi les questions relatives aux réglementations sur l'emploi, sur la fiscalité, les questions des assurances aussi. Comment est-ce qu'on assure un groupe d'habitants qui va mutualiser un certain nombre de véhicules ou un certain nombre de locaux qui vont être utilisés de manière non privative? Comment est-ce qu'on assure ça? Il y a des mutuelles, comme la Maïf, par exemple, qui s'emparent de ça. Mais comment est-ce que donc on permet que ça se passe correctement? Ensuite, il y a la question, effectivement, les services publics ne disparaissent pas. Il ne s'agit pas pour autant de dire « démerdez-vous avec votre santé, vous allez faire des petites maisons de quartier, vous allez faire venir les toubibs que vous voulez, puis vous allez vous soigner sans emmerder le monde ». Non, il s'agit effectivement de savoir comment les services publics se positionner et vont être des soutiens, des appuis par rapport à ce type d'initiative. Alors, est-ce qu'il faut effectivement que les services publics deviennent des communs, comme le suggère Dardot et Laval, qu'on a beaucoup évoqué aussi aujourd'hui? C'est une question qui est un peu complexe, qu'on va pas trancher, mais en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée. Et puis, évidemment, la reconnaissance juridique des biens communs, on a beaucoup évoqué, effectivement, Lucarelli et la commission Rodotta aujourd'hui. Donc, je ne vais pas revenir davantage sur cette question, vu que j'ai déjà dépassé largement mon temps. Bien, alors, ça veut dire effectivement qu'on passe d'une vision du citoyen comme un individu revendiquant son droit à ou ses droits à un individu membre d'un groupe social qui considère que la satisfaction de ses droits passe par celle du groupe. Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'ailleurs tout à l'heure je crois que c'était Roberto Camani qui avait parlé théorie des jeux. Il y a quand même un monsieur très intéressant dans la théorie des jeux qui, au début, hélas, il est décédé avant la publication de son bouquin, qui s'appelle Michael Bacharach, et qui a proposé de passer du iframe au WeFrame, en disant que finalement, il y avait le passage d'un raisonnement dans lequel on ne se demande pas what should I do, mais what should we do, et c'est l'individu dans le groupe qui ensuite, c'est le groupe qui se pose collectivement what should we do, et l'individu dans le groupe qui se pose la question what should I do for it. Et ça, c'est vraiment cette idée à deux temps, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement les jeux coopératifs dans lesquels on ne sait pas vraiment toujours comment on y arrive. Quoi. Et donc, du fait qu'on a deux paradigmes, le coopératif et le non-coopératif, sur lesquels les ponts ne sont pas évidents, si ce n'est effectivement les jeux répétés. Bien, alors... voilà, après, ça renvoie à des tas de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que... Donc,